Voilà, l'enregistrement va commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Nous, je vous annonce une bonne nouvelle. Nous sommes à notre avant-dernier cours. Je sais pas si la prochaine fois, ce sera le dernier cours, au moins, de sacramentaire. Mais on pourra en parler la prochaine fois. Voilà. Nous allons essayer de terminer et nous terminons ce soir avec le dernier sacrement, sachant que la prochaine fois, mardi prochain, nous parlerons plutôt des obsèques chrétiennes et donc les funérailles chrétiennes qui ne sont pas un sacrement, proprement parlé. Et je vous dirai un peu pourquoi on a choisi de parler des funérailles en dernier lieu. Mais donc ce soir, c'est l'onction des malades qui est le dernier des sept sacrements, ceux qui ont été retenus parmi les sacrements majeurs, comme on le dit. Mais avant de commencer le cours sur le sacrement de l'onction des malades, je voudrais un peu, comme on a fait les autres fois, et ça peut peut-être. Parfois, je ne réfléchis pas trop de la manière de mener le cours, mais avec vous, cette année, je me suis rendu compte qu'il était bien de tuiler les différents cours. Donc, vous vous rappelez que la dernière fois, nous avions parlé du sacrement de l'ordre et notamment, nous avions repris les questions de l'évolution de ministères dans l'Église catholique, notamment avec les moti propri ou le motu proprio du pape François concernant, nous l'avons vu, le ministère, l'institution de lectorat et de acolyta, et puis du ministère de catéchiste. Alors, c'était pas pour, je dirais, ce n'est pas une avancée énorme, mais c'est une avancée et surtout un déplacement par rapport à la vision qu'on peut avoir dans l'Église catholique des ministères. Nous l'avons vu la dernière fois. Surtout, je dirais, l'idée que des laïcs puissent exercer des ministères reconnus par l'Église et puis que cela soit naturellement change aussi le rapport qu'on peut avoir au ministère des femmes et donc la présence des femmes au sein de l'Église. Donc, c'était juste une proposition de lecture, juste pour voir que, justement, les sacrements n'étaient pas, les sacrements ne sont pas figés. Oui, Catherine me dit, nous avons parlé du sacrement du mariage, mais je revenais juste au début du cours, avant de commencer le sacrement du mariage. Et donc, de la même manière que nous avons fait pour le sacrement de l'ordre, c'est-à-dire en regardant ce qui est en train de se développer au sein de l'Église catholique, cette fois-ci, pour prolonger la réflexion sur le mariage, justement, je vous ai proposé de lire trois documents, de prendre connaissance plutôt de trois documents qui me semblent importants, qui me semblent, c'est pas une question d'importance, mais qui semblent remarquer ou qui semblent montrer qu'il y a une évolution aussi en ce qui concerne le sacrement de l'ordre. Donc, nous allons voir ensemble, puis pourrons peut-être, avant de commencer le sacrement de l'onction des malades, en parler ensemble, en discuter ensemble, peut-être réagir. Si aujourd'hui, cet après-midi, nous avons eu beaucoup de réactions. Donc, nous avons passé presque une heure sur ces documents. Mais c'est important qu'on puisse les lire ensemble. Et donc, je vais partager l'écran. Et je commencerai par le premier document qui était déjà donné avec le dossier sur le mariage. J'espère que vous le voyez. Vous le voyez, ce document? Oui, le partage fonctionne. Très bien.
Très intéressant.
Voilà. Donc,
Ça fonctionne.
ce document, vous l'avez vu. Déjà, je voudrais vous faire prendre conscience de quelque chose d'important. Ce n'est pas un document. Qu'on peut dire ça pirate ou sauvage. C'est un document tout à fait officiel, on pourrait dire, qui est publié dans la documentation catholique, comme vous voyez. sais pas si vous connaissez la documentation catholique, mais la documentation catholique est le, on pourrait dire, l'organe en France de la publication des textes officiels de l'Église catholique. Les textes officiels de l'Église universelle et puis les textes officiels de l'épiscopat français. Et donc, parfois, ils traduisent des textes aussi d'autres épiscopats de la langue originale en français. Et là, ce document qui est daté de 2014, donc on pourrait dire, oh, c'est un peu vieux quand même, on est presque à 10 ans de ce document, mais il reste encore très actuel. Vous le voyez bien que c'est marqué Contribution de la Mission de France. La Mission de France, c'est un diocèse à proprement parler, une réalité d'Église qui est née, qui a ses racines dans les premiers prêtres ouvriers, on pourrait dire, hein, et donc dans les années 50, 60, et qui s'est élargie à une dimension plus large de cette expérience des prêtres ouvriers et qui rassemble hommes, femmes, prêtres, religieux. Ce n'est pas un diocèse physique, hein, vous voyez, il n'y a pas un territoire précis pour ce diocèse, c'est plutôt un diocèse, on pourrait dire, idéal. Il a un siège précis, mais disons, il est une diocèse transversale qui rassemble des personnes qui se retrouvent dans la vision, dans la sensibilité de ce diocèse. Et donc, vous voyez bien que le texte le dit, hein, en vue du synode de 2014 sur la famille, donc c'est le synode, entre autres, qui a eu comme fruit Amoris Laetitia du pape François. Eh bien, en vue de ce synode, la Mission de France avait publié une synthèse, hein, sur les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation. Et donc, les conclusions, ou voilà, ce ne sont pas des conclusions de la Mission de France, mais la lecture objective de cette synthèse, probablement de cette enquête que la Mission de France a donnée, peut être très intéressante pour voir notamment le déplacement de la notion de famille. Vous voyez, par exemple, je pense que la première phrase du texte est très importante. Une des orientations de la Mission de France, votée en 2007, porte sur les questions nouvelles autour de la famille, la vie conjugale, l'éducation des enfants, la relation homme et femme. Et puis la prise en compte par l'Église de France en 2011 de la très grande diversité familiale, famille recomposée, famille monoparentale, nous encourage car dans chaque famille, il y a des membres qui vivent une réalité conjugale et familiale particulière. Et puis surtout ce qui m'intéresse, un peu comme la thèse de ce texte, la figure traditionnelle de la famille est devenue une parmi d'autres. Voilà. Et puis donc, il parle d'un compagnonnage avec les nombreux couples et familles. Et donc, ils ont voulu faire une réflexion en vue, entre autres, d'un engagement dans la préparation au mariage et l'accompagnement des couples. Alors, je voudrais très rapidement, on ne va pas lire tout le document, mais vous faire prendre conscience, si vous ne l'avez pas encore lu, ceux qui l'ont lu peut-être pourront rajouter quelque chose qui les a frappés. D'abord, les points essentiels sont généralement même tout le temps marqués en caractère gras. Donc, d'abord, ce que donne à penser à la rencontre des couples lors des préparations au mariage. Vous voyez bien, on parle bien de couples qui demandent à l'Église de être préparés au mariage. Et donc, la première perception, c'est que la célébration vient en cours de chemin. Et vous voyez, le pourcentage est très grand, hein? 90%, 95% des couples vivent déjà ensemble quand ils adressent leur demande. Hein? Donc, ça veut dire qu'il y a, je l'ai vécu moi-même, excusez-moi de faire cette donner cet exemple très personnel. J'ai trois nièces, j'ai un frère et trois nièces. Et les trois nièces, il n'y en a pas une qui vit maritalement de manière normale, si je peux dire, telle que nous la concevons, la normalité. Et l'une d'elles, c'est après 15 ans de vie commune, juste une dizaine peut-être, après deux enfants, qui a décidé avec son mari de se marier à l'église. Oui, donc c'est exactement ça. Donc du coup, on a comme l'impression que le mariage n'est plus le point de départ de quelque chose, hein, mais le mariage achève quelque chose, ou disons, confirme quelque chose, confirme une vie commune, hein. Donc le donné est assez intéressant. Puis, donc du coup, s'il y en a plusieurs qui s'engagent tard dans le mariage, le texte dit bien que la forte exigence affective fait reculer l'engagement définitif. Ça c'est clair du point de vue sociologique, mais ça, c'est pas vrai que pour des mariés, hein. Je peux donner le même témoignage pour des moines ou des religieux. C'est-à-dire, la vie religieuse aussi pâtit, si je peux dire, ou constate, qu'il y a une difficulté pour ceux qui, par exemple, chez nous, chez les moines, entreprennent la vie religieuse, ben, très peu arrivent au bout, et même s'ils arrivent au bout, peuvent un jour ou l'autre décider de quitter l'engagement monastique. Et donc, je pense que cette perception du fait qu'il y a des exigences affectives face à un engagement définitif, ça peut faire peur, hein? Et donc, il y a cette réalité. Puis, l'autre perception encore, la signification du sacrement du mariage est hors de portée. Donc, la plupart des couples qui viennent demander le mariage ont peu ou pas de formation catéchétique, hein? Donc, du coup, effectivement, il y a là aussi. On pourrait recouper cette donnée avec la question de l'initiation à la foi chrétienne et donc le fait qu'effectivement, souvent, peut-être qu'il y a des gens qui ont été baptisés enfants mais qui n'ont pas poursuivi leur initiation et leur apprentissage de la vie chrétienne. Donc, ils arrivent à demander un mariage sans vraiment comprendre exactement qu'est-ce qu'il y a derrière l'engagement dans la foi du mariage. Et puis voilà, et puis il y a cette perception, les accueillir sans jugement ouvre la porte à l'évangile. Là, c'est toute la question de ce qu'on appelle un peu dans un jargon pastoral, la sacramentalisation, c'est-à-dire quand il y a une demande de sacrement. Là, ici, nous sommes dans le cas du mariage, mais ça peut être aussi la demande de baptiser un petit enfant ou un bébé, ou encore peut-être, voilà, même les funérailles. Vous voyez, c'est pas un sacrement, mais quand même, si la demande n'est pas respectée, si ce n'est pas honoré, si on commence à brimer les personnes parce qu'ou bien ils ne sont pas en règle, ou bien ils sont pas vraiment pratiquants, et toutes ces questions-là, eh bien, on risque, pour le dire l'inverse de cette affirmation, de fermer la porte à l'Évangile, hein. Et donc, du coup, de ne pas donner la possibilité de vivre un processus d'approche qui peut venir de très loin, hein, mais qui peut être important dans la mesure où on accueille ces personnes dans leurs demandes tout à fait précise et concrète. Voilà. L'autre affirmation, c'est que l'accompagnement des couples mixtes est un défi. Qu'est-ce qu'on entend? Vous l'avez vu par couple mixte, ce sont des baptisés et non baptisés, ou baptisés confessant la foi chrétienne et baptisés agnostiques. Il y a une disparité, si je peux dire, dans la manière de se rapporter à la foi, hein. Eh bien, donc, il n'est pas très, très, très. Apparemment, le texte nous dit, c'est pas évident, c'est un défi, justement, d'accompagner ces couples. Vous voyez bien que à la difficulté déjà de choisir de vivre le mariage ou de vivre le sacrement du mariage s'ajoute celle d'une perception différente de ce que l'on peut vivre, qu'on soit croyant ou non-croyant, qu'on soit de religion musulmane, qu'on soit de religion juive, voilà. Donc ça peut poser problème. Voilà, là, nous sommes déjà dans une sorte de proposition, et je vous dirai pourquoi on pourrait dire que ce texte prépare aux deux textes que nous allons lire. Mais voilà ce que dit le texte. Ce texte-ci dit: le respect du sacrement et des personnes invite à explorer d'autres formes de célébration, d'autres formes de célébration. Alors, on dit bien, cela pourrait prendre la forme d'un catéchuménat en vue du mariage sacramentel. La préparation peut être de l'ordre, peut être imaginée de l'ordre d'un cheminement catéchuménal, justement. Vous voyez, à la manière dont des catéchumènes suivent un cheminement vers le baptême, là, ce serait le couple qui, de manière analogique, suivent un cheminement en vue du mariage sacramentel avec des étapes, des périodes. Hein. Et donc, le texte dit, une telle approche maintiendrait une présence de l'Église, cet instant important de la vie humaine et qui est un véritable terrain d'émergence et d'émission. Donc, il serait une prise en compte du mariage, mais de manière progressive. Hein, dans une dimension, justement, plutôt, le terme est employé dans l'Église de France, catéchuménale, c'est-à-dire à l'instar d'un processus catéchuménal. Et puis, la dernière perception de cette partie qui parle de ce que donne à penser la rencontre des couples lors de la préparation du mariage, c'est que donc l'accompagnement des couples et des familles tout au long de la vie est nécessaire. Par là, on veut dire que c'est pas parce qu'ils sont mariés qu'on a tout est réglé. Hein. Même si on parvient justement au mariage, cela demande un accompagnement continu. On pourrait dire la même chose pour un catéchumène qui devient fidèle, qui parvient au baptême. Il faudrait être plus attentif à accompagner ces personnes. Voilà, Grégoire et Emmanuel demandent en quoi est-ce différent d'une préparation au mariage habituel? Mais c'est peut-être que l'on tient compte davantage de la condition ou de la place qu'ont le couple qui se prépare au mariage, je veux dire, de leur situation, de leur capacité à avancer ou non, peut-être. Souvent, me semble-t-il, je n'ai pas d'expérience en cela, donc Grégoire et Emmanuel peuvent réagir si je dis des choses, des bêtises. Il me semble que la préparation au mariage, souvent, est un peu fixée dans des temps précis. On n'attend pas les couples pour qu'ils puissent mûrir quelque chose. On dit, le mariage sera le tel mois, il faut que pour le tel mois, on ait donné tout l'enseignement, la préparation. Alors que là, vous voyez, cela dit que, je pense que vous vous référiez à ça, c'est-à-dire que le cheminement de type catéchuménal tient compte de la possibilité ou de l'avancement des couples, mais plus précise. S'ils disent à un moment, on s'arrête, on s'arrête et on continuera plus tard, vous voyez? Donc, c'est quelque chose de progressif. Hein? Donc, je crois que c'est là que ça n'empêche pas qu'on avance, hein? Mais peut-être de manière moins structurée ou moins précise que dans une préparation classique au mariage. Donc là, c'était ceux qui on rencontre lors des préparations du mariage. Le deuxième volet, le numéro 2, concerne ce que donne à penser la rencontre des personnes séparées, divorcées, remariées. Voilà. Et donc là, bon, peut-être justement ce texte, je ne dis pas qu'il est caduque, mais on pourrait le faire évoluer par rapport à ce que le synode de la famille a dit et ce que le pape François a dit en Amoris Laetitiae. Mais quand même, prenons en compte de cela, parce que c'est encore assez réel comme réaction. Tout d'abord, une première perception, le rapport à l'Église. Et alors, la première perception est celle-ci, la manière dont l'Église se positionne en matière de doctrine sacramentelle est source d'une grande incompréhension et d'une véritable souffrance. Donc, apparemment, même réellement, ces couples ne se sentent pas accueillis, ne se sentent pas reconnus par l'Église. Et donc, on parle là d'une distance que l'on prend vis-à-vis de l'Église. On vit plutôt une foi individuelle, sans aucun lien avec d'autres croyants. Donc, bon, naturellement, nous n'allons pas juger ça. C'est une quasi-résistance pour pouvoir survivre en tant que croyant, hein, si on prend des positions de ce type-là. Beaucoup se croient excommuniés. Voilà, il y a cette perception-là. Hein, voilà. L'autre aspect, c'est leur rapport à la foi. Donc, toujours de ces couples séparés, divorcés, remariés. Donc, le texte dit, quand les personnes vivent l'épreuve de la séparation, du divorce, la foi est toujours éprouvée. Ça, c'est assez significatif. C'est-à-dire, la foi n'est pas quelque chose de désincarné. Heureusement, la foi s'incarne dans la vie, dans les personnes. Et si on est touché en tant que personne face justement à quelque chose de grave, ça peut être la séparation, ça peut être le divorce. Parfois, ça peut être un deuil, justement. Ça peut être un deuil. La maladie, hein, voilà. Mais nous sommes là dans la question du lien et du divorce. Eh bien, la foi en reçoit quelque part en peine, hein, donc en reçoit un coup, on pourrait dire, hein, et donc certains l'abandonnent car ils n'arrivent plus à concilier la représentation d'un Dieu de toute bonté avec la réalité de la souffrance, hein. Donc là aussi, c'est assez important à le remarquer. Et puis, cette phrase, ces chrétiens attendent de l'Église une attestation que leur vie n'est pas seulement un échec et que Dieu ne cesse de les mener à la vie, quel que soit le chemin engagé. Donc, l'idée que la porte reste ouverte, que Dieu s'adresse toujours à eux, que l'épreuve même de la séparation ou du divorce est un moment de la vie, mais n'est pas un moment définitif. Tout ça, vous voyez, c'est important. Et donc, le texte dit, la bonne nouvelle serait davantage audible pour eux si l'Église tenait davantage compte de l'expérience spirituelle des conversions que chacun peut vivre à tout âge et de que cela engage comme diversité de fidélité. On peut dire que à cela, le pape François a un peu répondu. On pourra y revenir, hein, mais le pape François qui après le synode de la famille, justement, dont on a fait allusion, a souligné l'importance de donner, de soigner ou d'être attentif plutôt à la conscience des personnes plutôt qu'aux règles ecclésiales, me semble qu'il répond un peu à cette idée-là, que l'idée de prendre en compte l'expérience spirituelle et le fait que Dieu agit même dans des situations peut-être qui peuvent apparaître comme des murs ou des portes fermées. Toujours par rapport à ces couples divorcés, séparés, remariés, leur rapport au sacrement. Alors, on dit, c'est la plupart du temps à cette étape de leur vie qu'ils découvrent que s'ils se marient, s'ils se remarient plutôt, ils ne pourront plus recevoir aucun des sacrements de l'Église. C'est comme une sorte de guillotine, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça, c'est l'impression ils ne pourront plus avoir de vie sacramentelle s'ils choisissent de recommencer une vie de couple. Et donc, cela peut être assez grave, hein. Donc, vous voyez, la première réaction est d'arrêter toute pratique religieuse ou de communier malgré tout. Voilà. L'autre perception, le fait de s'abstenir des sacrements est une situation tout à fait paradoxale pour un catholique qui se retrouve à vivre sa foi avec la seule parole de Dieu comme une nourriture, ce qui fait effectivement vivre nos amis protestants. Alors, vous comprenez ce que cela veut dire, hein? C'est-à-dire, souvent, on dit à ces couples, oh, quand même, alors là, je fais un peu de une paraphrase et peut-être je calque un peu trop les lignes, les aspects. On dit, oui, mais ne t'inquiète pas, tu pourras toujours écouter la parole de Dieu. Mais on sait bien que un monde catholique, me semble-t-il, on n'est pas encore prêt à dire je vivrai que de la parole de Dieu. On sent le besoin de participer au sacrement, de vivre la réconciliation, de s'approcher de l'Eucharistie, de partager l'Eucharistie. Et donc, c'est pas si évident que ça de s'abstenir des sacrements. Il y avait un évêque à Société de la Famille qui avait avancé cette remarque tout à fait intéressante, disant, comment ça se fait-il que nous sommes aussi stricts par rapport à l'accès au sacrement, c'est que nous ne nous permettons pas à ces personnes de recouvrer une nouvelle vie sacramentelle? Est-ce que dans l'histoire de l'Église a jamais existé une Église, notre Église, est-ce qu'elle a jamais permis de se réconcilier? Non, justement, il montrait comment à chaque étape de l'histoire de l'Église, notamment au premier siècle, face à ceux qui pouvaient être lointains à cause d'un péché grave comme l'apostasie, on lui proposait un cheminement comment dire, de réconciliation. Et là, ils pouvaient accéder à un vie sacramentelle. Là, on a comme l'impression qu'on demande aux personnes de s'abstenir tout court des sacrements. Et cela peut devenir difficile pour les personnes. Et puis donc, il y a toutes les questions juridiques, hein. La simplification de la procédure de la déclaration de nullité n'apparaît pas comme une bonne solution pour plusieurs raisons. Dans ce qu'on pourrait un peu dire, je demande la nullité du mariage et tout se règle. Mais justement, il paraît que cela ne fonctionne pas, on n'est pas bien accueilli, et les raisons sont indiquées là. Le petit nombre de ceux qui, il y a un petit nombre qui a recours à cette démarche. Ce serait dévaloriser le sacrement de mariage que de continuer à le délivrer sans plus grand discernement et de le déclarer nul ensuite. Le terme nullité fait problème. Cela demande de l'énergie, du temps, de l'argent. Donc, ouais, il faut aussi arriver dans quelque chose de plus pratique. Et puis donc, voilà, cela nous permet de nous pré de préparer les autres documents que je voulais voir avec vous. L'expérience de temps de prière à l'occasion d'une nouvelle union. Donc, au moment où on décide de vivre une nouvelle union, on peut vivre une expérience de temps de prière. Et là, on annonçait qu'un texte d'orientation a été voté par les évêques de France en 2002. Oui, je peux vous faire un scoop. Sachez que bientôt, je ne sais pas le bientôt, c'est un mois, 2 mois, mais disons, ce n'est pas trop tard, ce n'est pas trop long. L'Église de France, l'épiscopat français, va publier un rituel pour la prière qui accompagne les divorcés et remariés. Donc, du coup, il y aura quelque chose d'officiel qui va être publié. Alors, on me pose la question, toujours Grégoire et Emmanuel, est-ce que la même sanction privée de sacrement s'applique aussi à des religieux, prêtres, qui rompent leur engagement dans l'ordre? Justement, nous en parlions la fois dernière avec le groupe de l'après-midi, il y a une disparité de conditions, malheureusement, il faut le dire, hein, donc il faut pas, voilà, il faut être honnête, et généralement, c'est ça qui est étonnant. un prêtre qui décide de ne plus exercer son presbytérat et donc son ministère, bon, naturellement, il doit tout faire pour demander la dispense d'être relevé de ses fonctions en faisant demande au Vatican, qui généralement répond oui, hein, et donc peut réintégrer l'Église et vivre les sacrements. Voilà. Mais il n'a pas de cheminement pénitentiel à faire, ni de réconciliation. Alors, souvent, je me suis demandé pourquoi. Je reviens un peu en arrière, c'est parce qu'effectivement, on a une vision du mariage qui est très juridique, vous voyez, donc liée sur la loi naturelle. Et je pense que les moralistes et les théologiens réfléchissent sur bah, la manière de pouvoir désenclaver le mariage de cette vision un peu étroite et juridique. Hein. Voilà. Alors que le ministère d'un prêtre est considéré comme un ministère. Hein, voilà. Mais donc c'est lourd de conséquences, lourd de perception de voilà, de cette disparité. Hein. Alors je parle bien des prêtres. Hein. C'est encore plus facile pour un religieux, un moine, par exemple, un moine qui n'est pas prêtre, naturellement. Un moine qui n'est pas prêtre, le jour où il décide de ne plus être moine, il demande d'être relevé de ses vœux. Donc, on fait demande à nouveau à la congrégation pour les religieux, au dicastère pour les religieux, et on est libéré, comment dire, c'est dénoué des vœux qu'on a pu prononcer, et on a une vie, voilà, une vie sacramentelle normale. Mais c'est plutôt pour les prêtres que c'est assez choquant. Voilà, c'est plutôt pour eux. Donc, j'en étais à l'expérience du temps de prière, et vous voyez bien que donc ce texte qui était annoncé va bientôt paraître. Hein, un rituel, c'est pas rien, pour accompagner les couples séparés, divorcés, remariés. Et puis, la possibilité de ce temps de prière est l'occasion d'une préparation qui favorise un véritable cheminement de foi. Donc, vous voyez, on est soutenu par la prière d'une communauté ecclésiale, parfois par le prêtre, un diacre, nous le verrons dans le rituel que je vous ai proposé de lire ensemble. Et puis, c'est une expérience dont il faudrait tirer davantage profit, hein, pour avancer pastoralement. Voilà. Voilà, je fermerai là parce que je pense que ce paragraphe nous ouvre à la lecture des deux autres documents. Et à nouveau, je vous les ai proposés tout simplement pour que vous ayez conscience que notre Église catholique romaine, malgré toutes ces limites que nous venons de soulever, je dis bien les églises locales, parce que ce n'est pas l'Église catholique universelle. Là, ce rituel qui s'intitule Aimer à nouveau, piste pour accompagner les personnes divorcées qui demande un temps de prière à l'occasion d'un mariage civil. Vous voyez, on est vraiment dans le cas de figure qu'on vient de quitter dans le document. Mais ce document, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je vous le fais remarquer, a été conçu par le diocèse de Liège. Les deux documents, entre autres, hein, celui pour les divorcés et mariés, celui pour les couples homosexuels. Donc, du coup, c'est ce diocèse qui a publié ce texte. Alors, sachez que j'avais extrait quelques pages, donc j'avais mis à côté toute l'introduction qui pourrait être intéressante. Si quelqu'un désire avoir ces documents globalement, de manière intégrale, qu'il me le demande et je vais vous l'envoyer pour que vous puissiez en prendre connaissance. Mais vous voyez, je vous montre toutes les précautions possibles pour pouvoir vivre ce temps de prière. Vous avez bien compris, c'est un couple qui s'est remarié civilement. Et donc, on propose à ce couple qui s'est marié civilement d'avoir un temps de prière qui marque ce remariage civil. C'est vraiment, voilà. Et donc, qu'est-ce que le rituel, ce petit rituel propose? D'abord, je voudrais montrer quelle liturgie, la partie là de gauche, quelle liturgie. On dit bien, regardez, l'échange des consentements ou des alliances et la bénédiction nuptiale n'ont pas leur place dans ce type de prière pour éviter toute confusion avec un mariage sacramentel. On met bien, on distingue bien, voilà, les aspects, hein, et donc, mais quand même, on dit, on trouvera les gestes, les paroles qui éviteront la confusion. Donc, il faut être assez inventif pour pouvoir dire ça. Et puis, le texte dit, le rite se doit être parlant. Il convient donc d'évoquer le recommencement et l'amour qui anime les conjoints, leur projet de couple, la bienveillance du Seigneur. Et donc, vous le verrez, je vous le ferai remarquer, c'est souvent une prière dialogale, on pourrait dire, hein, dans laquelle les personnes qui sont concernées, dans le cas ici des couples divorcés et mariés civilement, on leur demande de participer de manière active, on pourrait dire, d'être participants par leurs paroles à ce rite. Et puis la dernière remarque, celui qui préside la prière est le prêtre, le diacre ou tout autre laïc qui en a reçu la mission. C'est assez intéressant cette remarque parce qu'on peut le rajouter au dossier des ministères, hein, c'est-à-dire il y a là une ministérialité des laïcs qui est élargie, hein, donc qui élargit la vision des ministères. Hein. Vous voyez que les laïcs aussi peuvent officier cette prière pour les couples divorcés et mariés. Et puis, par contre, on prend tout à nouveau les précautions possibles. Si l'officiant peut revêtir l'aube, vous voyez qu'est-ce que c'est l'aube? C'est le vêtement blanc, c'est souvent que le prêtre ou le diacre revêt. Signe baptismal, il ne semble pas judicieux de mettre l'étole, signe sacramentel. Donc l'étole, c'est cette morceau, étole d'étoffe verte, rouge, blanche, selon le temps liturgique, qui montre, dit le texte, qui est un signe plutôt sacramentel de l'installation d'un sacrement. Vous voyez que les précautions, c'est pour de ne pas le confondre avec un sacrement, mais avec, peut-être, je lâche le mot, avec un sacramental, hein, c'est-à-dire une célébration qui souligne la présence de Dieu, la demande de la bénédiction de Dieu, mais qui n'a pas valeur sacramentelle de sacrement. Voilà. Et donc, vous voyez, la prière commence par un accueil. Hein. Alors, c'est assez beau parce que l'accueil, le texte dit, peut se réaliser dans le fond de l'église, de la chapelle et autour des fonts baptismaux. C'est peut-être l'occasion d'évoquer le sens du baptême et de la démarche du couple. C'est-à-dire, je vous fais remarquer, c'est quand même des couples croyants qui ont été baptisés. Et donc, on commence par leur condition de baptisé, ayant vécu l'épreuve de la séparation et du divorce, mais ayant aussi eu la grâce, si je peux dire, de recommencer une vie de couple par la suite. Et donc, c'est toujours l'occasion d'exprimer sa joie, de rencontrer des personnes, de les accompagner, de se mettre sous le regard du Seigneur, quelle que soit leur situation humaine. Alors voilà, il y a toujours ces précautions-là à prendre. Il est bon de préciser le plus adroitement possible, mais sans ambiguïté, qu'il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'un mariage sacramentel, mais d'une démarche de foi quand deux personnes croyantes s'engagent dans un nouveau projet de couple. Hein, voilà. Non. Et puis donc, la prise de parole du célébrant ou de l'officiant. Et avec, vous voyez, après la parole de l'officiant, la parole du couple. Le couple peut à son tour se présenter, dire en quelques mots les raisons de son choix, de se tourner vers le Seigneur au début de ce nouveau projet de vie. Donc il y a là un dialogue entre le célébrant et le couple. Et puis l'invitation à entrer dans la prière. Alors, attendez, j'arrive tout de suite. Entrer dans la prière et donc avec un geste, vous voyez, un geste qu'on pourrait dire sacramentelle, qui a une dimension sacramentelle, on allume alors une bougie qui aura été disposée devant une icône du Christ ou déposée devant, sur l'autel à côté. Donc, l'introduction à la prière est accompagnée d'un geste rituel. Hein. Vous direz, c'est peu de choses, mais c'est beaucoup. Là, dans le cas précis, la lumière est toujours aussi, plus parlante que beaucoup de paroles. Et puis, donc, l'écoute, l'oraison, malheureusement, je suis navré, mais je l'ai reçu comme ça, ce document. On a perdu toutes les prières qui sont écrites probablement avec des caractères plus clairs. Et donc, on ne peut pas lire la teneur de la prière. Mais on voit qu'il y a donc, on s'approche de la lecture de la parole de Dieu. Hein, et avant la parole de Dieu, on échange un geste de paix. On échange un geste de paix. Et on passe à la liturgie de la parole. On a plusieurs textes qui sont proposés. Il y a une homélie, une pièce musicale, un témoignage. Et puis voilà, en quelques mots, le couple exprime ce qu'il vit, le projet de vie qui l'anime. Il peut aussi dire aussi en quoi la parole de Dieu, plus précisément les textes entendus, l'interpellent. Je trouve que ce type de ritualité est intéressant aussi pour nos propres ritualités. Là, vous entendez bien que ce moment de prière propose au couple de prolonger l'homélie faite par le célébrant. Hein? Donc, il y a un échange à partir de la parole de Dieu. Et puis, il y a probablement une prière, à nouveau, je m'excuse, elle s'est pas voulu, hein, qui a disparu sur les époux. Il serait très intéressant de voir quel type de teneur il est là. Et puis donc, on termine par la prière universelle, la prière du Notre Père et la bénédiction finale. Oui, quelqu'un m'a fait remarquer, la bibliographie renvoie quand même donc, à l'exhortation apostolique Amoris Laetitia, dont on a parlé tout au début, la lettre apostolique des évêques de Belgique, à la suite d'Amoris Laetitia. Puis de la Chaux, Guy, je ne le connais pas. Vescot, c'est ce fameux évêque dont je vous ai parlé tout à l'heure qui disait « Jamais l'Église n'a laissé sans réconciliation les gens qui pouvaient pécher ou s'éloigner de l'Église. » Et Bordaine était l'ancien recteur de la faculté de théologie de Paris, de la Cato, et qui est devenu maintenant recteur de l'université Jean-Paul II à Rome, donc du coup, qui est une université qui réfléchit à une théologie de la famille, justement. Donc, voyez, il y a un fondement quand même théologique. Je termine et puis je vous laisserai la parole. L'autre rituel, à peu près à la même teneur, c'est-à-dire nous sommes toujours, pour reprendre une expression du pape François, dans des périphéries de l'Église, hein, c'est-à-dire dans des situations extrêmes, c'est-à-dire qui ne sont pas encore reconnues à plein titre par l'Église, hein, par notre propre Église. Et là, il s'agit plutôt d'un rituel qui a comme référence ou qui rend attentif à la situation des personnes homosexuelles. Et donc, du coup, il y a là un autre rituel, toujours le diocèse de Liège, hein, vous le voyez, il vient de là. Je vous dirai après coup d'où j'ai tiré ces deux rituels et pourquoi j'en ai eu connaissance. Et donc, voilà, à nouveau, c'est pareil, hein. L'idée, c'est d'accueillir, accompagner, porter dans la prière le projet de vie partagé par des personnes homosexuelles. Alors du coup, là, vous voyez, on a à nouveau le temps de prière, l'accueil. Là, on va même plus loin dans la ritualité. On dit qu'on peut installer un lectionnaire, le livre de la parole de Dieu, mettre en évidence une bougie à côté, prendre le livre au moment de lire la parole de Dieu. Voilà, et puis il y a différentes étapes de la célébration, dont le premier est l'accueil. Il y a la proposition d'une parole, Et la parole, ça peut être intéressant de la lire rapidement. Certaines circonstances nous invitent à nous arrêter car elles sont des passages importants qui nous engagent personnellement ainsi que nos proches, nos familles. Chacun est appelé à entrer dans l'alliance offerte par Dieu. L'Église ne se tient pas à l'écart de la vie des hommes et des femmes, à l'image de Jésus qui rejoignait les disciples sur la route d'Emmaüs et qui discutait avec eux. Elle veut être proche de chacun. Et voilà, nous sommes heureux de les entourer. Donc aujourd'hui, nous reçoivons du bonheur de Pierre et Jean. Nous sommes heureux de les entourer. Nous leur souhaitons déjà de former un couple ouvert, de les construire dans la fidélité, le respect de chacun. Voilà, cette célébration est le signe d'une Église accueillante à tous, dans la mesure où il y est épaulé pour vivre sa foi. On la considère comme une famille dans laquelle chacun peut vivre pleinement son humanité. Un peu comme on l'avait vu pour les couples divorcés et mariés, le couple prend la parole. On propose au couple de prendre la parole, de remercier, de dire leur reconnaissance, de se trouver dans un chemin de prière, pourquoi ils souhaitent de se tourner vers Dieu. Et puis donc là, on a avant la parole, la liturgie de la parole, la lecture de la parole de Dieu, une prière de l'officiant qui dit: Père de toute bonté, tu portes sur notre humanité un regard de bienveillance, tu connais les méandres de nos vies, nos luttes, tu partages nos rêves et bons moments de joie. Nous te demandons de poser ton regard sur Pierre et Jean. Ils désirent s'engager dans un projet de vie commun, qu'ils restent toujours ouverts et accueillants à la nouveauté de l'Évangile et à ta présence au cœur de leur vie. Accompagne-les de ta lumière, de ta force sur le chemin vers lequel ils s'engagent et reçois notre prière, toi, notre Dieu, pour les siècles des siècles. C'est une prière qui demande à Dieu d'être présent dans la vie du couple qui vit une relation telles que peuvent le vivre des personnes homosexuelles. Et puis donc, il y a le temps de la parole, voilà, avec les textes qui sont donnés. Vous voyez bien que commentaire par le couple est celui qui conduit la célébration. Chacun peut apporter son éclairage sur le texte. À nouveau, je pense que c'est assez intéressant parce que peut ouvrir un autre type de célébration de la parole, vous voyez. Généralement, aux homélies, nous sommes tous silencieux, on ne réagit pas face à la parole de celui qui prêche. Peut-être que nous devrions apprendre à vivre, pas tout le temps, ça dépend aussi des groupes, si on a une grosse paroisse, c'est compliqué. En petit groupe, on pourrait essayer effectivement de vivre ce type de partage de la parole par le prolongement de l'homélie. Puis tant de louanges de la prière, voilà. Et puis, on a la parole de l'officiant. Voilà, notre communauté réunie aujourd'hui avec vos amis, vos familles, heureuse de vous accueillir. Nous cheminons ensemble. Voilà. Vous avez décidé d'unir vos histoires en une histoire commune. Voilà. Nous nous réjouissons de pouvoir nous associer à votre prière. Et puis donc, il y a une sorte d'engagement du couple. On peut regarder la teneur de cet engagement. On parle bien d'engagement du couple, hein. C'est le couple qui s'engage réciproquement. On fait le choix, là, le rituel d'échanger des cadeaux. Vous voyez, ce n'est pas des alliances, mais c'est très symbolique. On échange des cadeaux, des gestes, voilà. Et puis, la parole d'engagement dit, l'un et l'autre pourra composer et proposer une parole d'engagement qui peut suivre ce texte. Depuis que je t'ai rencontré, l'émerveillement de la découverte a grandi dans la confiance de notre amour. Je te suis reconnaissant de ce que je vis. Je m'engage à te respecter, à t'aimer toujours davantage, à te soutenir dans la richesse de nos différences, à découvrir avec toi un chemin de vie et de bonheur. Et après, donc, la prière du couple. Voilà. Et puis le geste de paix et la prière de l'attachement. Et regarde, de l'officiant, excusez-moi. Et donc, la prière qui est adressée à Dieu, hein. Donc, tournons-nous avec confiance vers le Seigneur, Dieu très bon. Et puis, daigne bénir Jean et Paul, que leur amour soit généreux, toujours attentif à ceux qui leur sont proches. Qu'ils ne cessent de te chercher en vérité, d'approfondir les liens qui les unissent, qu'ils te trouvent les mots, les gestes, les attitudes pour se montrer solidaires des grands enjeux de notre époque, que ta paix les anime sans cesse. Voilà, ce sont des souhaits qu'on exprime à Dieu pour le couple. Alors là, je vois une réaction. Est-ce que ces rituels peuvent être suivis en France ou uniquement dans l'hôtel de Liège? Alors, naturellement, comme je vous disais, ils ont une autorité, ces rituels. Hein. C'est l'évêque qui a promulgué ces rituels, l'évêque de Liège. Donc, c'est pas des rituels pirates, hein, ni de partis, on pourrait dire, trop dangereuses de l'Église, hein, mais plutôt par une Église locale, qui est l'Église de Liège. Et alors, est-ce qu'on peut l'employer en France? Ça, je ne saurais pas vous le dire, effectivement. Mais ce qui est sûr, c'est que quand même la pratique d'une église locale. Donc, il n'y aurait pas de danger de tomber dans un travers ou des formulations qui ne sont pas justes du point de vue théologique. C'est des rituels qui ont été préparés sous le regard d'une commission réunie par l'évêque. Et donc, sûrement une valeur. Hein, voilà. Et puis donc, l'introduction à la prière de notre Père, l'intervention possible d'un ami, un temps de conclusion et d'envoi, la bénédiction de l'Assemblée et un chant final. Alors, juste avant de vous donner la parole, parce que c'est important peut-être, j'ai beaucoup parlé, je vous ai beaucoup montré, mais peut-être que vous avez des choses à dire, ou à réagir, ou à comprendre. Mais je voulais juste vous dire d'où j'ai... ces deux rituels, je les ai demandés à une collègue de l'Institut catholique de Paris, où j'enseigne, et elle a conduit... Et je crois que oui, elle a conduit au premier semestre un séminaire de recherche universitaire, donc, hein, à la faculté de théologie, pour réfléchir sur les bénédictions, voilà, sur la dimension des bénédictions. Et donc, une des séances de séminaire était centrée sur ces deux rituels. Ont été donnés, qui ont été envoyés par un collègue belge qui menait aussi le séminaire. Et donc, c'était de l'ordre de travailler, de rechercher si, quelle est la valeur de ce rituel, quelle est la portée, les prières, voilà, comment on peut analyser, comme venons plus ou moins de faire. Et donc, voilà. Je arrête le partage et je vous donne la parole.
J'ai une première question, si vous le voulez bien.
Oui,
Jean-Marie. Qu'est-ce que vous pouvez savoir et nous dire des pratiques de nos frères protestants en la matière?
Alors,
vous
oui.
Savez,
hein. Oui, tout à fait. Mais déjà, vous ferez remarquer que pour les protestants, c'est la première chose à dire, hein, le mariage n'est pas un sacrement. Voilà. Donc, pour les protestants, le mariage est une bénédiction, justement. Un peu de la même teneur de ces bénédictions que nous venons d'entendre. Hein. Je vous fais remarquer.
Non, donc peut-être plus facile.
Et donc moins, oui, c'est-à-dire moins engageante qu'un sacrement, naturellement. Hein. Vous avez bien remarqué la différence entre la grande prière de bénédiction du couple, du mariage que je vous ai montré, la bénédiction nuptiale, et ces bénédictions qui n'ont pas la même teneur. Hein. Voilà. Dans la première, on demande vraiment l'intervention de Dieu pour qu'il consacre le couple, dans celle du mariage, hein, celle que nous avons lue ensemble la dernière fois. Dans celle-ci, on souhaite la bénédiction de Dieu sur les... C'est un peu différent, voilà. Donc, je reviens aux protestants. Les protestants, pour eux, le mariage n'est pas un sacrement, donc c'est... Et donc, j'imagine qu'eux aussi accompagnent pastoralement parfois les divorcés, mais dont la séparation peut-être est moins dramatique, encore que toute séparation est toujours dramatique, hein, humainement. Qu'on soit croyant ou non, c'est toujours un drame. Voilà. Ça fait partie de... voilà, c'est douloureux de vivre une séparation. Par rapport au couple divorcé, ben donc ça c'est pour le couple divorcé et marié. Pour les couples homosexuels, l'Église protestante unie de France, vous voyez que vous savez sûrement qu'aujourd'hui en France, luthérien et réformé ont créé une seule Église qui s'appelle Église protestante unie de France. Et donc ils ont tenté. Ils ont des bénédictions de couple homosexuel, mais ça crée beaucoup de tensions, même au sein de l'Église protestante unie de France. Le rituel est passé, c'est-à-dire la bénédiction est passée, mais ça a créé quelques tensions au sein. C'est encore plus compliqué chez les Anglicans. Chez les Anglicans, c'est encore plus difficile. D'une part cela, et de l'autre l'acceptation par des anglicans dans des pays précis d'accepter par exemple l'épiscopat des femmes. Il y a des pans d'anglicans qui quittent l'Église anglicane à cause de ça. Je ne sais pas si j'ai répondu, Jean-Marie.
Merci.
Est-ce que d'autres voudraient réagir par rapport à ça?
Oui.
Oui. France.
Oui, alors je ne comprends pas du coup quel est le problème qui a surgi ces dernières semaines avec le synode allemand.
Oui.
Sur ces bénédictions.
Oui.
Si le diocèse de Liège les pratique, je ne comprends plus du tout.
Alors, honnêtement, je vous dis en toute simplicité, je me suis pas encore penché sur les résultats du synode de l'Église allemande, mais il doit bien sûr être quelque chose de plus poussé de ce que nous venons d'entendre là. Il se peut qu'ils aient fait des choix beaucoup plus importants, ça y est. Mais je ne saurais pas vous dire lesquels. Ce qui est sûr, que ce rituel est tout à fait approuvé par l'Église locale de Liège et par son évêque. Ce sont, en vérité, ça va dans le sens de la tentative, si vous voulez, justement, de prendre acte d'une réalité dans l'Église, et donc de ne pas laisser des parties, des personnes dans l'Église comme marginalisées par rapport à la situation qu'ils vivent, vous voyez.
D'accord.
Et vous voyez bien que, j'espère que vous avez, que cela soit été perceptible, on prend toutes les précautions pour dire que ce n'est pas un sacrement, ce n'est pas un mariage, ouais. Tout ça, c'est bien ça. Peut-être que l'Église d'Allemagne est allée plus loin dans certaines prises de position de la portée de ces bénédictions, vous voyez. Mais il faudrait vérifier. Je m'excuse de ne pas pouvoir vous répondre plus clairement.
Je peux vous confirmer que,
oui,
de ce que j'ai lu,
oui,
en effet, ils vont un peu plus loin.
Voilà. Donc,
mais bon, je n'ai lu que des rapports. Hein,
oui,
pas
je comprends.
Des textes sous les yeux, bien entendu.
Je comprends. D'autres réactions?
Est-ce que vous pourriez rappeler ce qu'a apporté à Maurice Laetitia?
Oui,
je suis sûre de comprendre en quoi ça a été une rupture.
Oui.
Ou pas.
Oui, parce que là, à nouveau, vous voyez, souvent nous en parlons, c'est-à-dire tout le monde sait que le pape a écrit cette exhortation apostolique à Maurice Laetitia, qui a quelque part, c'est cette exhortation qui est un peu dénouer le gel autour, je parle bien de la condition de divorcer et marier. Pourquoi? Parce que dans Amoris Laetitia, le pape dit, en gros, là je suis en train de paraphraser, mais vous pourriez chercher vous-même si vous voulez, vous savez qu'on peut le trouver en ligne dans le site du Vatican, tous les documents des papes successifs, notamment celle-ci. Le pape dit, là, je paraphrase, l'Église n'est pas un tribunal, mais plutôt un hôpital de campagne. Vous vous rappelez de cette phrase?
Oui.
C'est-à-dire, il faut, voilà, on ne peut pas penser qu'il faut juger tout le temps. Et donc, il quitte une posture qui est assez souvent celle, malheureusement, de certains pasteurs dans nos paroisses et dans nos diocèses, qui se posent en juge de la situation des personnes et qui peuvent refuser ce que j'appelais la sacramentalisation d'un couple, d'un enfant d'un couple, de funérailles, disant il n'y a pas les conditions pour, voyez. Le pape dit il faudrait plutôt partir des personnes et de leur conscience, voyez. Et donc il me semble que la lettre, l'exhortation apostolique a un peu désenclavé ou dégelé cette vision. Un peu les règles de l'Église disent que, voyez, le pape invite plutôt les pasteurs avoir avec les personnes un dialogue personnel et vérifier effectivement s'ils peuvent avancer dans un chemin d'intégration de ce qu'ils vivent au sein de l'Église. Voyez, ce qui me semble très important, c'est de ne pas dire tous les couples divorcés et mariés ne pourront jamais plus communier, mais de dire, moi, prêtre d'une paroisse, suis un couple divorcé et marié et vois avec eux la possibilité de communier ou non, et sur ma parole, ils communient. Vous voyez, c'est plutôt une relation interpersonnelle que non tombée d'en haut, hein, qui fige un peu ce que disait le texte du diocèse de la mission de France, hein. On ne peut pas figer les choses. Donc, c'est ça qui a. Et le mais est très important, le mais que je vais vous dire tout de suite. Comme fait le pape toujours, il dit c'est pas moi qui va. Moi, je dis ça, mais c'est aux évêques et aux prêtres d'appliquer ça. Et donc, malheureusement, la distance aujourd'hui, ou la difficulté, c'est que pas tous les prêtres suivent cela.
Il y a une disparité.
Il y a une grande disparité, voilà.
Une disparité, et ça, c'est.
Mais est-ce que ça veut dire que certains prêtres le suivent? C'est-à-dire qu'il y a effectivement.
Ah ben, il y en a qui sont tout à fait gagnés à la vision du pape. Et donc, il y a sûrement des gens qui accompagnent, bien avant que le pape parle, pouvaient accompagner de cette manière les divorcés et mariés ou les couples homosexuels. Je parle d'eux, mais il y a d'autres expériences. Voilà. Mais encore aujourd'hui, on peut avoir des résistances. Voilà.
Jusqu'à autoriser la communion à nouveau, c'est ça que
et alors, voilà. Et alors, du coup, c'est-à-dire, à nouveau, ce n'est pas une question de. Le pape n'a pas dit tout le monde peut maintenant communier. Il dit c'est dans le chemin personnel des personnes qu'on pourra juger, discerner s'ils peuvent et comment ils peuvent communier, vous voyez. Je trouve très intéressant cet appel à la conscience des personnes, parce que c'est vraiment, même pour chacun de nous, c'est le domaine le plus profond, le plus secret que nous ayons. Et peut-être c'est le lieu où Dieu seul arrive, hein. Naturellement, ça se fait dans un discernement avec quelqu'un. Je ne dis pas, ma conscience me dit, il faut que je le vérifie avec quelqu'un.
Oui, mais il y a juste un petit truc, moi, qui me dérange dans tout ça, c'est que finalement, aujourd'hui, il faut qu'on fasse un petit peu son petit marché. On sait que dans telle paroisse, il y aura un prêtre... Il sera ouvert à cette démarche dans telle autre paroisse, ben ça, en fait, c'est même pas la peine d'en parler. Donc, moi, je trouve que ça met un peu mal à l'aise.
Vous avez tout à fait raison, hein, France. C'est-à-dire, on peut tomber dans ce travers-là du moment où, effectivement, les mentalités ne sont pas encore. N'ont pas encore changé, en vérité. Hein. Donc, on peut vraiment dire que. Mais je peux vous lâcher l'anecdote, comme ça, vous comprenez ce que je veux dire. Le fameux séminaire dont je vous ai parlé, qui était un séminaire de recherche, donc ce n'était pas quelque chose de spirituel ni de. Je le sais par oui dire par le collègue, le séminaire s'est divisé en deux face à ces deux textes qu'on a lus ensemble. Il y a eu les cinq prêtres, jeunes prêtres, qui ont dit jamais, on ne fera jamais ça. Et les restes qui étaient des laïcs, c'est des gens, des personnes comme vous, qui ont dit mais pourquoi pas? Vous voyez? Donc, le séminaire était un groupe peut-être de 12, 14, 15 personnes, vous voyez. Mais c'est très significatif et c'est peut-être, comment on peut dire ça Et donc, on est loin, avec toute la bonne volonté et même la parole du pape, on est loin que cela soit passé encore dans la mentalité et dans le désir de certains catholiques. Aujourd'hui, cet après-midi, avec vos collègues de l'après-midi, ce n'était pas trop évident. Hein. Il y en a qui pensaient que c'était une épiclèse, cela qu'on faisait sur les couples divorcés. Mais non, ce n'est pas une épiclèse. Donc, on avait la peur que ce soit... Voilà, donc, mais voilà, ça c'est notre question. Nous voulons toujours voir ce que nous voulons voir, en vérité.
Tu l'as vu ?
Voilà, peut-être je vous propose de nous arrêter, de faire une pause, et puis on parlera de l'onction des malades. Alors on se dit là c'est 11, ça veut dire on se retrouve vers 20, 21h20.
Okay.
Voilà, je vous invite à revenir. On va commencer notre partie sur l'onction des malades. Vous m'entendez?
Oui.
C'est parfait.
Je voulais seulement vous dire, quand on accompagne des catéchumènes, la question des candidats forcés au mariage, c'est vraiment une grande difficulté.
Je le sais, un de vos camarades de cette année dit aussi que ça l'a beaucoup découragé, en vérité, hein, parce qu'il y a parfois, on arrête des catéchumènes pour des situations ou des états de vie qui ne sont pas dits non compatibles. Voilà.
Mais c'est même, il y a effectivement, le cas des divorcés remariés, c'est le problème même pour les baptisés. Mais oui. Ce qui est plus terrible, je trouve, pour le coup, c'est accompagner des catéchumènes qui vivent maritalement. Oui. Et là, on leur refuse le baptême, alors que justement, pour le mariage, on accepte, parce que 90 à 95%, comme a été écrit par la mission de France, des jeunes vivent, sont en chemin et vivent maritalement avant
tout
de
demander
le baptême.
Et il y avait, parce que j'accompagne le catéchuménat, et donc on avait une rencontre avec Mgr Ulrich à Paris, et ça s'est remonté par entre autres les prêtres en disant mais moi comment faire pourquoi d'un côté j'accepte et de l'autre côté j'accepte pas, qu'est-ce qui peut justifier ça?
Oui,
et là
Mgr Ulrich n'est pas celui qui est le plus fermé, hein.
Non, mais justement c'était la première rencontre qu'on avait avec lui, donc je pense que justement c'était l'opportunité.
Bien sûr.
Que peut-être quelque chose bouge sur le diocèse de Paris.
Oui.
Mais voilà, les prêtres ont réagi, on dit mais on fait comment nous, on est face à quelque chose qui est inexplicable.
Ouais.
Oui, mais il avait une pratique bienveillante.
Effectivement, il faut tenir compte de ça. Nous sommes en train de nous préparer à Pâques et les catéchumènes sont en train de vivre leur préparation. Il faut penser que parfois on en laisse de côté, au sens on ne permet pas à des personnes d'accéder au baptême à cause de ça. Mais ça donne à réfléchir, effectivement. Je voudrais vous signaler que Catherine, et je remercie Catherine, elle nous indique, vous l'avez vu dans la boîte de dialogue, qu'elle a cherché dans le diocèse de Liège, qu'elle trouve le rituel pour les couples homosexuels, mais pas celui pour le divorcé et marié. Je vais m'informer, Catherine, auprès du collègue qui est de Liège, justement, et de comprendre si on peut
c'est
trouver.
C'est peut-être aussi parce que, autant sur celui de homosexuel, j'ai repris exactement le libellé.
Ah oui.
Je n'avais pas noté le libellé exact
l'autre,
du texte.
De la autre.
Donc, c'est peut-être que j'ai mal cherché.
Mais parfait, parfait. Alors, je suis navré de vous dire ça, mais je vais ouvrir la porte à mon abbé. Donc, si vous êtes gentil, vous m'attendez 5 minutes et j'arrive. Je le casse dans sa chambre et voilà, j'arrive.
J'ai une question pour vous, Catherine. Bonjour. Pardon, c'est bonjour ici. Oui, bonjour.
Bonjour, oui.
Je ne suis pas sûr d'avoir compris en fait, le contexte de ce que vous avez dit. C'est-à-dire que sur Paris, des jeunes, voilà, et qui ne sont pas divorcés, remariés ou quoi que ce soit, qui seraient catéchumènes mais qui vivraient maritalement, ne peuvent pas être baptisés.
Exactement.
Ou c'est parce qu'ils sont maritalement liés à quelqu'un qui est divorcé, remarié.
Parce qu'ils ne vivent, oui, tout à fait. Parce qu'ils vivent en couple, sans être mariés. Hein. Le fait de vivre en couple.
Sans avoir, ni l'un ni l'autre n'avoir été marié avant.
Non.
C'est pas vrai.
Ben oui, et c'est là où c'est. Et moi, quand j'ai demandé la confirmation à 25 ans, je vivais maritalement et on me l'a refusé. Et ça n'a pas bougé, c'est ça qui est fou. Parce que c'était il y a 40 ans, il y a 35 ans.
Ah oui.
Alors du coup, ça donne lieu à des trucs pas possibles. Il y a des prêtres qui trichent, qui disent que... parce qu'il y a des fiches à remplir. Et du coup, qui répondent pas la réalité des choses. Enfin, c'est absurde.
Ah oui, oui, effectivement. Oui.
Effectivement, quand on voit le constat de la mission de France, c'était très bien, c'est hyper factuel. 90 à 95% des couples qui sont accompagnés sont. Bah, alors pourquoi?
Ah oui, non, mais je suis complètement d'accord. Moi, j'ai adoré ce texte. Hein.
Oui, il est très beau.
Oui, par définition, les catéchumènes sont des gens qui ont déjà fait un beau parcours. Hein.
Mais oui, parce qu'on leur demande de se convertir. Bah oui, mais laissez-leur le temps. Enfin, il faut bien leur. En fait, la difficulté, ce n'est pas non plus de mettre de côté le sujet. C'est de bien de montrer. Et du coup, là, le Monseigneur Ulrich a relevé le fait en disant effectivement, ce qu'il faut qu'il soit construit sur un amour fidèle. Bon, voilà. Mais voilà, c'est. Et on se dit, si c'est un chemin comme. Qui les amènera vers. Parce que moi, j'étais exactement dans ce cas de figure. Je demandais la confirmation. En me préparant au mariage.
Et ben, du coup, ça voilà, merci pour votre patience. Vous avez discuté apparemment.
Oui, tout à fait.
C'est très bien. Donc, on va parler de l'onction des malades. Comme je vous disais, donc, retenons que c'est le dernier des sept sacrements qu'on a fixés vers le XIIe siècle. Et puis, le Concile de Trente a consacré comme étant un des sacrements. Et donc, on va regarder. Bon, je vais partager l'écran à nouveau, une fois de plus. Voilà, vous aviez reçu ce plan des cours. Comme nous le faisons habituellement, nous allons d'abord introduire l'évolution du sacrement au cours de l'histoire, et puis nous rentrons dans le sacrement lui-même et dans le rituel lui-même. Je partirai d'une perception, c'est du rapport de l'homme à la maladie, et souligner comment, jusqu'à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, la maladie était uniquement définie du point de vue subjectif. Hein, du point de vue subjectif. On estimait la gravité du mal d'après l'état où était réduit le malade, qui souvent était encore jeune à cette époque. Et donc, en raison de la durée habituellement brève de la maladie et de l'absence de traitement spécifique, le malade était généralement soigné à la maison. Il ne connaissait pas l'épreuve de la séparation, de la solitude, de l'isolement. Mais un tournant va avoir lieu autour du XXe siècle, hein, là où les progrès de la médecine ne fondaient pas de géants. Et donc, cette situation nouvelle entraîne au plan social et culturel d'importantes conséquences. La maladie est devenue, on peut le dire aujourd'hui, une des préoccupations les plus constantes, les plus angoissantes de notre société, de l'homme contemporain. Et parfois, elle devient un état de vie prolongé. On peut être malade longtemps dans la vie, ou parfois il peut être permanent, cet état. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la maladie n'est plus comme autrefois en étroite connexion avec la mort. Vous voyez, on la sépare de la vision maladie égale mort. On peut être malade, mais ne pas être destiné ou disons ne pas devoir subir rapidement la mort. Et quelle est la problématique théologique qu'on pourrait poser face à ce changement de société, hein? Généralement, les publications théologiques qui concernent le sacrement de l'onction des malades peuvent contenir différentes positions. Hein. L'une, une position, j'essaie de résumer ces différentes positions, il peut y avoir la position qui retient que le sacrement parachève quelque part la pénitence. Parachève la pénitence, ou encore le fait qu'on peut considérer le sacrement de l'onction comme la sanctification de la mort, le sacrement est là pour sanctifier la mort, ou encore l'idée que le sacrement des malades est justement le sacrement de celui qui vit cet état de malade. C'est cette dernière position que le Concile Vatican II a retenue, c'est-à-dire le sacrement de l'onction des malades est là pour accompagner la situation de quelqu'un qui vit dans un état de maladie. Et donc, on élargit l'administration du sacrement depuis le Concile Vatican II aux malades qui vivent cet état, qui vivent cet état. Et donc, on s'éloigne avec cette vision de la conception médiévale qui avait prédominé jusqu'au moins au Concile et qui considérait justement l'onction des malades comme, vous vous rappelez l'expression, l'extrême onction. L'expression extrême onction vient du fait qu'on a rapproché l'idée que l'onction était donnée au moment de la mort, hein, qu'elle était extrême. Et donc, je vais essayer de, très rapidement, si vous voulez, rapidement, comme il faut le faire, vous montrer l'évolution historique au cours de l'histoire. Et nous commençons naturellement des données bibliques. Et nous prenons conscience, je vais prendre conscience de l'importance du Christ qui guérit les malades. C'est même le geste premier du Christ, hein, au moment où il annonce l'Évangile. Le geste qui annonce que le royaume est présent, c'est le fait que le Christ guérit les malades, hein, guérit les malades. Et donc, la maladie est le signe que le royaume de Dieu est proche. Et donc, le Christ, nous l'avons entendu dimanche dernier dans l'évangile de l'aveugle né, le Christ écarte l'idée, la conception éthique qui attribue à une faute l'origine de la maladie. Vous vous rappelez les gens qui veulent un peu le mettre en difficulté dans cet évangile de Jean, on lui dit, mais est-ce que c'est lui, l'aveugle, qui a péché ou ses parents? Et Jésus répond, ni lui ni ses parents. Donc, du coup, il écarte cette possibilité de coller l'idée de la maladie à l'idée du péché ou de la faute. Voilà. Les communautés chrétiennes primitives poursuivent cette vision, je dirais, positive, c'est-à-dire pas négative, de la maladie, et l'expérience du Christ devient l'expérience de l'Église, hein, qui prolonge les gestes de guérison de Jésus et affirme l'Église elle-même, les premiers disciples, les premiers apôtres, affirme la présence du Christ et sa victoire sur la mort. Voilà. Quand nous passons à la tradition liturgique, comme nous l'avons vu aussi pour d'autres sacrements, naturellement, on a comme l'impression que plus on s'éloigne de l'annonce de l'Évangile et donc de l'événement du Christ, et plus les choses se gâtent. La vision qu'on peut avoir de ce geste de l'onction va être rendue un peu opaque. C'est cela que nous allons voir dans ce petit excursus historique. Entre le 1er et le 4e siècle, nous n'avons pas beaucoup de sources qui nous permettent de comprendre quelles pouvaient être la liturgie de cette onction des malades. Nous n'avons qu'un témoignage d'un document que nous avons déjà rencontré dans les autres séances de cours et qui s'appelle la tradition apostolique. La tradition apostolique, ce document pseudo-épigraphique qui, effectivement, était un document qui recueillait, collectait différents témoignages de la vie communautaire dans une communauté chrétienne précise. Et ce document décrit la pratique de cette Église de faire bénir, de bénir l'huile. C'est l'évêque qui bénit l'huile pendant la célébration de l'Eucharistie, l'huile qui est destinée aux malades. Donc, nous avons ce témoignage-là de ce document. Et il est recommandé par ce document, il est recommandé à l'évêque d'aller auprès des malades après signalement des diacres. Donc c'est les diacres qui disent « tu devrais bien aller chez le tel malade ou le tel malade ». Et l'évêque allait pour oindre le malade. Voilà. Entre le 5e et le 7e siècle, on a toujours cette pratique qu'on vient de décrire de la tradition apostolique, mais on va voir d'autres textes qui insèrent la formule de bénédiction de l'huile au sein même de la prière eucharistique. Oui, donc l'huile est bénie au sein même de la prière eucharistique. Et d'autres sources nous permettent de saisir concrètement quelle était la pratique de l'onction entre le 5e et le 7e siècle. Les fidèles malades peuvent être oints à cette époque de l'huile du Saint-Crème, et cette huile est consacrée par l'évêque, et non seulement les prêtres peuvent oindre le malade, mais aussi les laïcs, qui eux peuvent chercher de l'huile à l'église, à la communauté où l'Eucharistie est célébrée, apporter l'huile chez eux, se oindre eux-mêmes et oindre les malades. Donc, vous voyez, il y a un usage de cette huile, je dirais, libre et tout à fait partagé entre les fidèles chrétiens. Entre le 8e et le 12e siècle, là où nous avons plusieurs témoignages, qu'est-ce qu'on saisit? Alors, on voit que le centre de gravité du sacrement n'est plus la bénédiction d'huile, mais c'est plutôt l'administration de l'onction. Donc, c'est le fait d'administrer l'onction et de qui administre l'onction. Et donc, à cette époque apparaissent les premiers rituels en vue de l'onction des malades, qui sont caractérisés par une grande variété de gestes, de prières, et par une grande liberté aussi de la manière dont on peut imposer cette huile sur les malades. Voilà. Mais à partir du 10e siècle, on assiste à l'idée que seulement les clercs peuvent imposer l'huile aux malades. Donc, ce ne sont plus les laïcs qui peuvent le faire, mais seulement l'onction d'huile sur le malade est réservée aux prêtres. Et on souligne de plus en plus les effets spirituels de l'onction des malades. Et donc, à partir du 10e siècle notamment, on commence à penser l'onction des malades comme une purification du mal, Là, on commence à faire passer l'onction des malades du côté d'une vision plutôt morale, moraliste, du péché, du mal, voilà. Et donc, l'évolution la plus importante et la plus significative se fait par le déplacement du rite de l'onction vers le moment de la mort. Vous voyez, donc le rite de l'onction n'est plus donné éloigné de la mort, mais vers le rite de la mort. Et ce glissement de l'onction vers le moment de la mort se généralise est causé par l'association de fait de l'onction avec la pénitence au moment de la mort et avec le viatique. C'est à ce moment-là que on commence à appeler l'onction l'extrême onction. Vous voyez? Donc on aura au moment de la mort trois moments, trois gestes: l'onction du malade qui n'était pas là avant, la confession et le viatique, c'est la communion eucharistique. Hein. D'où l'idée de extrême onction. Ce sont les derniers sacrements que l'on donne au celui qui va mourir. Entre le XIIe et le XVIe siècle, on a tendance à ajouter l'onction au sacrement de la pénitence. Et cela va s'affirmer clairement. Elle est d'ailleurs déjà une pratique courante à cette époque, le fait d'unir l'onction au sacrement de pénitence ou de confession. Et le lien avec la discipline pénitentielle est donc évident. Le danger de mort, le fait qu'on sache qu'on est en train de mourir, est la condition préliminaire pour recevoir le sacrement. Si on n'est pas en danger de mort, on ne peut pas recevoir le sacrement de l'onction. Vous voyez ? Avec tout ce qui comporte les trois autres gestes comme la confession et le viatique. Et donc, on se dirige vers un unique type de rituel qui contient les rites en vue de la mort, autour de la mort, et qui sont regroupés selon leur succession. Onction des malades, confession, viatique, voilà, la communion. Naturellement, entre le 16e et 20e siècle, c'est le Concile de Trente qui va marquer cette pratique. Le Concile de Trente ne fait que recevoir les pratiques que je viens de vous décrire, hein, et il va les fixer dans le rituel de l'extrême onction, j'emploie le mot parce que c'est comme ça qu'il s'appelait dans le rituel issu du Concile de Trente, et il va donc va devenir le sacrement des mourants. Le sacrement des mourants. Nous allons un renouveau de ces pratiques, une mise au point de ces pratiques au moment une réconsidération de ces pratiques au moment du Concile Vatican II. Nous l'avons vu, le Concile Vatican II est toujours exprime toujours le désir de revoir les rites jusque-là pratiqués depuis 30 jusqu'au Concile. Et ce qui est intéressant, c'est que le Concile Vatican II ne prétend pas donner une doctrine sur l'onction des malades, mais plutôt veut réviser le rite du sacrement de l'extrême onction, qui s'appelait encore comme ça, avant qu'il soit réformé. Et donc, on l'appelle onction des malades, vous l'entendez bien. On passe de la vision d'une extrême onction à onction de malade. Et cela, déjà, est une prise de position par rapport au débat autour de ce sacrement. Et en outre, en ce qui concerne le sujet du sacrement, les pères conciliaires ont voulu quelque part favoriser une interprétation plus large, hein, de celui qui est sujet du sacrement, Et ils disent que ce n'est pas celui qui est en danger de mort, mais c'est le malade tout court qui est le sujet du sacrement. Il y a un changement de la vision que l'on pouvait avoir. D'où donc, voilà, l'expression « onction de malade », on la retrouve dans la Constitution sur la liturgie au numéro 73, ce qui fait prendre une position nette par rapport à la perception qu'on pouvait avoir de ce sacrement. Et puis, à travers le jeu de la promulgation des rituels, vous vous rappelez, il y a d'abord la promulgation en langue latine le 30 novembre, 7 décembre 72, et puis le rituel en langue française, c'est en 77. Donc, quelles sont les caractéristiques principales du rituel? Je dirais déjà le titre du sacrement, le titre du rituel lui-même. Je vais essayer de vous le montrer. Je change de page. Voilà. Le rituel s'appelle, le rituel, l'adaptation française, Sacrement pour les malades, pastorale et célébration. Vous l'avez remarqué, ce qui change beaucoup de choses, c'est le sacrement au pluriel. Sacrement pour les malades. Nous verrons qu'il y a plusieurs manières de s'approcher des malades ou d'accompagner les malades dans leur épreuve qui sont de l'ordre de sacrement au pluriel. Et puis, naturellement, on a le sous-titre qui est aussi important, qui est celui de pastoral et célébration. Donc, d'abord, pastoral, c'est-à-dire qu'il y a le soin des malades, l'accompagnement des malades devient l'objet d'une pastorale ecclésiale, de la pastorale ecclésiale, paroissiale, voilà, l'attention, le soin des malades. Et surtout des célébrations au pluriel, à nouveau. Il n'y a pas qu'une seule célébration qui permet de faire vivre ce sacrement. Très rapidement, je voudrais, après vous pourrez aller le voir vous-même, mais les notes d'autrice. Non, d'abord, regardez le décret de promulgation par l'époque, ça s'appelait Congrégation pour le culte divin. Le texte dit « L'Église manifeste cette sollicitude de diverses manières. Elle visite ceux dont la santé est atteinte. Elle leur apporte le soulagement par le sacrement de l'onction. Elle refait leur force par le sacrement de l'Eucharistie, soit au cours de leur maladie, soit quand ils sont en danger de mort. Enfin, elle prie pour eux et les confie à Dieu, surtout quand ils arrivent à leur dernière heure. » Donc, vous voyez, on tient l'idée de justement de l'accompagnement des malades, même si la mort s'approche. Mais c'est d'abord la condition du malade qui est soulignée. Et le pape, dans sa lettre, dans sa constitution apostolique, il va dire justement ceci, j'essaie de le souligner. Le second concile de Vatican a ajouté des précisions suivantes. L'extrême onction, qu'on peut appeler aussi et mieux l'onction des malades, voyez, n'est pas seulement le sacrement de ceux qui se trouvent à toute extrémité. Aussi, le temps opportun pour le recevoir est-il certainement déjà venu lorsque le fidèle commence à être en danger de mort à cause de la maladie ou de la vieillesse. Et plus loin, par l'onction sacrée des malades, la prière des prêtres, c'est l'Église tout entière qui recommande les malades au Seigneur souffrant et glorifié, pour qu'il les soulage et les sauve. Bien mieux, elle les exhorte à contribuer pour leur part au bien du peuple de Dieu en s'associant librement à la passion et à la mort du Christ. Vous voyez, il y a vraiment cette idée que l'Église soigne ou accompagne les malades dans leur épreuve. Voilà, et puis... Les autres aspects qui me semblent importants, c'est juste les parties que vous pourriez regarder vous-même. La première partie qui réfléchit sur l'aspect sociologique ou même existentiel, un monde affronté à la maladie. Le texte dit, une de tes grandes questions, l'existence de la souffrance est l'une Et une des grandes questions posées à la conscience des hommes, elle est parfois perçue comme un scandale. Et puis l'idée numéro 2, que le malade ne doit pas être considéré comme un être à part. Vous voyez, comme un être à part. Et puis, cette idée qui élargit l'idée de la lutte contre la maladie n'appartient pas aux seuls malades. Ceux qui sont au service des malades doivent étudier ce qui peut être fait, expérimenter et tenter pour soulager leur corps et leur esprit. Donc, vous voyez, cette idée qu'il n'y a pas, on n'a pas une vision un peu passive de la maladie, mais plutôt il faut la combattre, il faut lutter contre la maladie. Puis donc, nous l'avons déjà souligné, l'importance de que le malade est un chrétien qui est face à la maladie avec le Christ, pas seul. Il partage donc, il est animé par la foi au Christ, dit le texte. Et puis, un peu plus loin, cette idée-là, donc, il portera aussi un témoignage à son état, donc le malade, en continuant à aimer au cœur de l'épreuve, en poursuivant ses tâches, ses activités sans démission, en vivant l'espérance. Voilà. Donc tout chrétien est appelé à vivre son existence quotidienne en intime union avec Jésus-Christ. C'est encore vrai du chrétien malade. Et puis l'importance de la communauté chrétienne et des malades. Donc là, le malade est soutenu par la communauté chrétienne. Et donc le texte dit de manière très claire, tous les baptisés ont-ils à cœur de participer à ce service de charité mutuelle au sein du corps du Christ. Je voudrais maintenant vous montrer justement la ritualité de ce sacrement qui montre que ce que j'appellerais une sorte de concélébration dans l'Église de ce sacrement. Je m'en expliquerai. Tout d'abord, vous voyez bien qu'il y a en gros deux gestes qui concernent ce soin donné aux malades, ce sacrement des malades. La communion que l'on apporte aux malades et l'onction des malades, à proprement parler. Ce sont deux moments qui peuvent être unis, mais qui ne sont pas nécessairement toujours unis. Et donc, la communion des malades, vous le savez, peut être confiée aux laïcs. Il y a pas mal de laïcs qui vivent ce ministère et qui apporte la communion malade. L'onction des malades, par contre, est réservée seulement aux prêtres. On peut s'interroger, nous en avons parlé cet après-midi, faut-il, dans la vision qu'on a du sacrement, limiter l'onction des malades aux seuls prêtres, alors qu'il y a beaucoup d'aumôniers et d'hôpitaux qui sont des laïcs, vous voyez, et qui parfois pourraient être appelé à donner l'onction des malades. Mais sachez que donc ces deux dimensions du sacrement de l'onction des malades est très importante. Et les deux manières d'être attentif et de partager avec les malades voient une même structure de célébration qui comporte un accueil, la liturgie de la parole, la liturgie du sacrement et la conclusion. Donc, vous voyez, c'est une structure que nous connaissons désormais. Au cœur, toujours, les touches de la parole et sacrement, vous le voyez là, et puis avec l'accueil et la conclusion. Si je regarde du côté de la communion des malades, là, vous avez naturellement une vision très structurée, je dirais quasi hiératique de ce geste d'apporter la communion. Je disais cet après-midi, naturellement, il faut adapter cela. On ne peut pas dire, je vais maintenant faire le prêtre quand j'apporte la communion malade, le Seigneur soit avec vous, ou bien asperger d'eau bénite. Il peut y avoir des gestes très domestiques. Quand on dit la salutation, ça peut être une salutation tout à fait amicale. L'eau bénite, ça peut être quelque chose que l'on vit au sein même du lieu où on apporte la communion dans le milieu domestique. Ça peut être une coupelle d'eau que l'on bénit, sous laquelle on invoque la présence de Dieu. une bénédiction de Dieu et qu'on se signe ensemble. Je dis toujours, ne jouons jamais le rôle de celui qui est extérieur du malade, mais qui est plutôt proche du malade. Hein. Et puis, c'est pareil, la préparation pénitentielle n'est pas faite de formules, mais de se positionner devant Dieu, un peu comme nous l'avions vu pour le sacrement de réconciliation, s'accueillir mutuellement face à Dieu qui guérit, qui sauve, qui intervient dans nos vies. Puis donc, on a les lectures bibliques, l'explication, on pourrait là mettre en œuvre ce que nous avons vu avec les rituels pour les divorcés et mariés ou les couples homosexuels. Le fait qu'à la suite des lectures bibliques, il y a un partage de l'écriture, voilà, et qu'on puisse partager ensemble avec le malade ce que on retient de cette lecture de l'écriture, et puis une prière qui ouvre dimension du monde. Puis vous voyez que la communion donc est précédée du Notre Père, du rite de la paix, du fait de s'embrasser, de dire le fait qu'on est proche, et puis la communion. Je dis toujours, il serait bon de ne pas, de prendre l'habitude, quand on apporte la communion, d'apporter deux hosties ou autant d'hosties qu'il y a de personnes chez le malade, pour que la communion ne soit pas la communion qu'on donne au malade, mais soit la communion que l'on partage ensemble, vous voyez. On pourrait prendre l'habitude, me semble-t-il, d'aller à la messe dans laquelle l'Eucharistie est célébrée, naturellement, et dans laquelle on reçoit le pain eucharistique, mais de dire « je communie pas l'Eucharistie, mais je communie avec le malade ». Vous voyez, cela change complètement la vision qu'on peut avoir du fait qu'on partage et qu'on est en sympathie avec le malade. Et puis la bénédiction et la salutation. Quand on passe du côté de l'onction des malades, naturellement, elle a une structure plus accomplie. Ça peut se faire aussi dans des lieux domestiques. Ça se fait aussi, vous le savez, dans les paroisses. Souvent, on a des onctions, des célébrations qui regroupent plusieurs malades d'une paroisse. Ce sont des moments très signifiants et forts. Hein. Et donc, le rituel, vous voyez, en gros, suit la même ritualité, mais de manière naturellement peut-être plus dense et plus hiératique, plus conséquente. Et quand nous en arrivons à la liturgie du sacrement, c'est à l'onction du malade, vous voyez qu'il y a marqué, il y a quatre schémas au choix. Et le rituel a voulu penser ces schémas par rapport au groupe de personnes qui sont rassemblées. Alors, vous voyez qu'il caractérise ces groupes. Il y a un groupe dans lequel les personnes participent, voilà, à la liturgie, et donc on va plutôt mettre en avant et souligner la signification de l'huile du sacrement. Il y a peut-être un groupe toujours dans une célébration communautaire, comme celle que je venais de dire, en paroisse, par exemple. Donc, du coup, là, on va privilégier la prière litanique qui va être plus développée. Il peut y avoir une célébration festive. Et donc, on peut souligner l'aspect festif de la célébration. Et donc, on commence par l'imposition des mains. Mais il peut y avoir aussi des situations plus extrêmes dans lesquelles il n'y a pas de réponse de la part du malade, ou des questions de maladie, justement, où il y a un milieu qui entoure le malade qui ne participe pas vraiment. Et alors, du coup, on adapte ce schéma, adapte cette onction à cette célébration, à cette situation. Et donc, le sacrement, la célébration continue par la litanie, la prière universelle, l'imposition des mains, la bénédiction de l'huile, on va imposer au malade l'onction, la prière après l'onction, le Notre Père, le rite de la paix, la communion, et comme nous l'avons vu auparavant. Vous voyez bien, J'aime bien rappeler ceci, c'est peut-être que ce dernier sacrement, ce dernier, le septième sacrement de l'onction des malades, peut-être est celui qui, de manière symptomatique, nous dit davantage qu'est-ce que c'est un sacrement. C'est-à-dire, nous sommes là dans la situation de personnes, nous pourrions l'être un jour, qui sont au plus fragiles, dans une condition de fragilité, de situation extrême, pas au sens d'extrême onction, mais de fragilité, voilà, de faiblesse. Et là, le sacrement vient à dire que Dieu est proche, que Dieu soutient, que Dieu offre la grâce. Et cela est dit par la participation de ceux qui apportent la communion, de ceux qui apportent l'onction des malades, vous voyez. C'est donc qu'il y a là la ministérialité de l'Église vis-à-vis d'une grâce qui est donnée par Dieu lui-même. Il me semble très intéressant de le souligner. La prochaine fois, nous allons... Alors, je vous laisse réfléchir sur ce que nous venons de dire. Et puis, comme j'ai fait... malheureusement, c'est pas, ça ne vous concerne pas, mais j'ai annoncé au groupe de l'après-midi que je ne pourrais pas être là l'après-midi. Donc, il est possible que nous soyons plus nombreux le soir, parce qu'on aura tous un cours le soir en visio. Je dois présider une soutenance de thèse à l'Institut catholique, la thèse d'un prêtre indien qui a travaillé sur la liturgie de Thésée. Et donc, il va présenter une recherche de doctorale sur ça. Et je ne pourrai pas être là l'après-midi. On sera plutôt là le soir. Et je proposais au groupe de l'après-midi de venir avec des questions par rapport à ce que nous voulons dire du sacrement des malades, là, du coup. Et donc, si vous voulez, on commencera, comme nous avons pris l'habitude, à parler de l'une ou l'autre. J'en ai déjà quelques-unes des questions qui m'ont été données. Et nous pourrons en parler ensemble. Et puis, terminer le parcours sur les sacrements avec un non-sacrement, avec les obsèques, comme je vous disais, qui, c'est grâce à vos prédécesseurs que j'ai inséré les obsèques, qui n'est pas un sacrement, mais qui est très important aujourd'hui pour voir l'évolution des sacrements et comme étant un lieu d'évangélisation très important aujourd'hui. C'est un lieu où on peut annoncer l'évangile à travers les obsèques chrétiennes et qui, à nouveau, de manière très importante, manifeste le mystère pascal plus que d'autres sacrements encore. Voilà. Donc, nous parlerons de ça et mardi prochain. Donc, je vous propose la question de les poser la prochaine fois. Si vous voulez, vous me les envoyez par email avant, mais vous n'êtes pas obligé. Sinon, vous les posez directement le soir même de mardi prochain. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une belle semaine.
Bonne semaine.
Voilà. Merci à vous. Merci pour votre participation. Merci.
Au revoir. Bonne semaine à tous.